On retrouve Marie-Ange Cookie. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Valérie.
On vous retrouve avec plaisir. Marie-Ange, parce qu'on parle d'un sujet aussi qui nous intéresse tous finalement. Comment s'améliorer? Comment. Ben voilà
Comment
le
mieux se
bonheur.
connaître,
Mieux se
comment
connaître.
souhaiter ce que nous voulons
Qu'est-ce qu'on
afin
veut en
d'attirer ce
positif?
positif.
Voilà. Est-ce qu'en pensée positive, tout simplement, ça permet d'obtenir du positif?
Oui, mais cela ne veut pas dire que cela se manifestera par le simple fait d'y penser.
Ce serait facile.
Voilà, ça serait facile. Il est facile d'observer que toute énergie attire une énergie de même nature. La personne qui, par exemple, parle toute la journée de ses problèmes se dirige probablement vers ce problème encore plus grand. Les problèmes à répétition que certains rencontrent ne révèlent nullement du hasard, mais sont le reflet, plus ou moins la vibration plus ou moins constante que nous attirons. Après, c'est l'ego qui est la source de nos plus grandes erreurs. Nous allons parfois de déception en déception pour la simple raison que nous voulons changer les autres. Et la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à changer si ce n'est soi-même. Donc à nous de nous connaître pour évoluer. La pensée positive entraîne la positivité, mais c'est vrai que ce n'est pas que le fait de penser, c'est un travail sur soi,
Sur
en
soi-même.
profondeur.
Et ça se manifeste comment?
Alors, une crise dans notre vie, quelle que soit, devrait être comprise comme un appel à changer notre énergie. C'est le signal qu'il faut passer à l'action. Plutôt que le voir en négatif, se dire, OK, il y a un truc là qui s'est passé, changeons. Donc, lorsque les personnes éprouvent le besoin d'une nouvelle vie, le souci, c'est qu'ils veulent tout et de préférence de suite. Il est impossible de passer de 110 volts à 220 volts sans effectuer certaines préparations. Sinon, le compteur saute. Donc, c'est vraiment par étapes.
Vous avez des exemples?
Oui. C'est un exemple tout simple. Par exemple, certains gagnants du loto, certains, c'est pas une généralité, sont peu nombreux à vivre dans une grande prospérité quelques années plus tard. Alors, le problème dans certains cas, c'est que certains bénéficiaires n'étaient pas du tout préparés mentalement à recevoir ce flot d'argent, malgré la richesse tombée du ciel. Ils sont restés avec une mentalité de pauvre. C'est des statistiques, hein. Chez certains, sans faire de généralité, c'est une culpabilité plus ou moins consciente qui les persuade qu'ils ne méritent pas la richesse ou alors que l'argent est source de tous les maux, les amène à tout dilapider ou à se faire arnaquer. Alors attention, c'est pas une généralité.
Oui,
Voilà,
mais c'est
certains, c'est
beaucoup,
arrivé,
certains.
certains.
Alors, on est donc les créateurs de notre propre, de notre réalité. On veut changer aussi, on souhaite le changement. Est-ce qu'on a conscience? C'est ça la question. Est-ce qu'on a conscience de ce changement? Comment on
Eh
fait?
bien, quelque part, comme je disais auparavant, dès que quelque chose se passe pas exactement comme nous souhaitons dans la vie, à nous de nous poser des questions en se disant qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? C'est le moment de changer. La qualité de notre vie est étroitement liée à ce que nous croyons sur nos capacités. Si pendant plus de 20 ans ou plus, on a entretenu certains types de comportements, il faut établir de nouvelles connexions, faute de quoi notre ancienne manière de penser, de réagir, reprendra le dessus, anéantissant toute possibilité d'évolution et de changement. Une fois que vous savez réellement ce que vous souhaitez, restons fascinés sur notre objectif pour poser les bases d'un nouveau départ et nous réussirons.
C'est ça.
Voilà. Se dire qu'est-ce que je veux autrement aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux autrement?
Donc en fait, on attire ce qu'on veut en fonction de l'attitude que l'on adopte.
Oui, l'attitude de celui ou celle que nous voulons devenir.
C'est ça.
L'énergie va automatiquement, je vous assure, hein, Valérie, vraiment, va automatiquement sur ce que nous voulons, mais aussi sur ce que nous voulons pas. Donc lorsque vous observez, exemple, une amie qui est dans ses tourments, observez une amie, si elle est dans ses tourments, vous allez observer sa posture. Si la posture, elle est restée, on constate que la personne reste repliée sur elle-même, avec les épaules abaissées, une voix sans conviction, un manque d'engagement à aborder la vie avec un nouveau regard. Voilà. Même si elle dit le contraire, on va voir la posture. Et tant que le corps aussi, pas que le mental, n'a pas intégré le changement, tout au moins dans le regard, dans l'expression du visage, cela signifie que la personne reste connectée avec ses problèmes. Comment voulez-vous que le mental suivent dans le positif?
Donc c'est par l'ouverture du cœur que les transformations les plus importantes
Oui, l'ouverture
vont
de
se mettre en
conscience,
place.
l'ouverture du cœur. Pour les personnes figées dans la rancœur, elles gaspillent de la haine, de l'énergie. Elles se retrouvent dans des situations de plus en plus difficiles. C'est comme un poison, en espérant que l'autre va en souffrir. Mais en réalité, c'est la personne qui a ce poison qui est la première victime. Et loin d'être réservé aux faibles, croyez-moi, le pardon, c'est un acte courageux dicté par le cœur et l'intelligence. Le pardon n'est nécessite d'ouvrir son cœur à la compréhension, que chacun agit toujours pour le mieux. Il n'y a pas la blanche colombe et le méchant crapaud. Chacun agit pour le mieux de ses possibilités. Et le vrai pardon, il vient du cœur. C'est lui qui détient le pouvoir de cicatriser. Et le pardon, c'est un cadeau pour soi-même.
C'est vrai, c'est important le pardon. Alors nous devenons en fait le metteur en scène pour écrire un nouveau scénario, c'est ça ?
Oui, car nous sommes dans un monde de cause à effet. Il est donc nécessaire d'engager une démarche active pour concrétiser nos intentions. Alors, un projet bien construit, bien sûr. Hein. La maison, elle commence par les fondations. Pour préserver tout l'équilibre dans nos domaines de vie. Et une vie heureuse, quelque part, c'est le résultat d'une certaine manière d'être, en nous concentrant sur le meilleur et ensuite en lâchant prise.
Donc c'est l'ouverture de la conscience, l'action, la gratitude, le pardon, si j'ai bien compris, l'amour, le lâcher prise, c'est les clés ?
Oui, toute évolution passe par un changement de conscience. C'est vraiment l'ouverture de conscience. C'est se préparer à recevoir le meilleur, voir avec le cœur et remercier gratitude. Si nous sommes en paix à l'intérieur, en congruence avec ce que nous voulons, et bien l'extérieur va agir à l'unisson.
Ça, c'est vrai que... Et puis ça se vérifie d'ailleurs.
On le vérifie tous les jours.
Merci à vous, Marie-Ange Coux.
Merci, Valérie.
Ce beau voyage intérieur, voilà, il suffit de l'appliquer, de mettre en place ses conseils.
Tout à fait, ses conseils. Ses façons d'être et de faire.
Et vous le voyez de toute façon dans le quotidien.
Je le vois en quotidien, en consultation. En relaxation psychosomatique, nous travaillons sur les émotions. Nous le voyons aussi pour les personnes qui consultent en thérapie comportementale. Donc cela veut bien dire qu'il est utile de changer certains comportements. Après, pour les personnes intéressées, il y a aussi des propositions de formation.
On va en parler.
Des formations, Psynose Formation. J'ai un site, Psynose Formation à Bastia, qui existe depuis 2010. Voilà, qui permet des formations en sophrologie, relaxologie, un cursus complet en hypnose ericksonienne, en thérapie comportementale, en PNL. Et une formation qui débute bientôt, au mois de novembre, en coaching, c'est-à-dire coaching et pratique managériale qui accompagne l'évolution d'une personne ou d'une équipe. C'est l'art de la relation, mieux communiquer. C'est aussi assumer une équipe, réorienter une carrière. Ça peut être un coaching individuel, un coaching d'équipe ou un coaching d'organisation et managériale.
On redonne l'adresse ?
Alors, c'est Psynose Formation sur Bastia, 12 quai des Martyrs.
Merci beaucoup à vous, Marie-Ange.
Je vous en prie, Valérie, avec plaisir.
On peut bien sûr écouter nos chroniques de Bella Anima.
En podcast.
Au revoir.
Merci.
Marie-Ange Cookie, bonjour.
Bonjour, Valérie.
Allez, Marie-Ange, on continue avec vous. Alors, rappelez-nous. Quelle est votre formation chez Ligeti ?
Alors, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Alors, j'exerce la profession de psychopraticien à Bastia, en thérapie comportementale, en hypnose ericksonienne, en PNL, ainsi que sophrologie, relaxation psychosomatique et le MDR pour le stress post-traumatique.
Voilà, et le stress est de chez nous.
Voilà, et un centre de formation, Psynose Formation à Bastia, qui propose des formations avec possibilité de financement, puisque ce sont des formations data-dockées.
C'est ça, et c'est efficace. Alors, Marie-Ange, on a commencé à parler de comment se connaître, améliorer sa vie, on est sur ce thème. Et vous nous avez parlé aussi du fameux pouvoir du subconscient.
Oui.
De quoi s'agit-il ?
Alors, on devrait plutôt dire potentialité du subconscient. Il y a de nombreux auteurs à lire, par exemple le docteur Joseph Murphy. Alors, le subconscient, il a été découvert au début du siècle dernier. Le principe est que l'esprit humain est le fruit de deux composantes, une partie consciente et l'autre inconsciente. Et ce subconscient le croise la nuit, parfois durant nos rêves nocturnes, ou parfois quand on fait face à une situation, on va dire, grave, on mobilise des ressources supérieures de façon naturelle. Erikson dit que la plupart de nos potentialités, de nos ressources, sont enfouies au profond de notre esprit, dans la partie subconsciente de notre psyché.
Alors par exemple, on dit que quelqu'un, une femme par exemple, qui voit son enfant sous une très très grosse branche, elle a peur bien sûr pour son fils, elle est capable de lever cette branche, elle est capable de, comme on dit, de soulever des montagnes.
Oui, hein, de soulever montagnes, c'est vrai. Alors qu'elle ne pourrait pas le faire, elle le fait spontanément, elle mobilise toutes ses ressources. Par exemple aussi, l'exemple quand nous roulons, par exemple nous dépassons un village, notre conscience est ailleurs pendant quelques instants et on se rend compte que tout en n'étant pas ici et là, nous sommes quand même vigilants, donc il y a une partie de nous qui est vigilante, et nous avons pu continuer à conduire au point de nous étonner que voilà, que le temps est déjà passé. C'est une preuve que notre subconscient a pris les rênes, c'est-à-dire nos mains, nos pieds, nos yeux, notre cerveau analytique pour bien vérifier, et quelque part c'est une évasion mentale. Et en hypnose ericksonienne, c'est une technique qui montre vraiment le pouvoir du subconscient. Milton Erickson, qui est un thérapeute très connu, psychiatre, décédé en 1980, qui a participé à la mouvance de l'école de Palo Alto, qui, grâce à l'hypnose ericksonienne, a permis les thérapies brèves, la PNL, voilà, parle de ce subconscient qui est un réservoir de connaissances à explorer, vraiment. Et déjà, Freud et Jung en parlaient de l'inconscient comme la partie immergée de l'iceberg, comme un continent encore à explorer de nous-mêmes. Et c'est vrai que nous sommes aux prémices hein, de ce continent à explorer.
C'est vrai. Alors, on va parler de l'hypnose. Comment vous procédez en hypnose? Il y a des codes, des principes derrière ces pratiques de thérapie que vous appelez ericksonienne.
Ericksonienne, oui, du nom de Milton Erickson. Alors, en thérapie ericksonienne, il n'est pas nécessaire de rendre conscient ce qui est inconscient. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire que les mécanismes mentaux, que les caractéristiques de la personnalité soient analysées par la personne. Les suggestions sont indirectes, c'est très, très respectueux. Les suggestions indirectes qui aident à contourner les limitations acquises du patient. Et la suggestion thérapeutique d'hypnose ne consiste pas à programmer le patient avec le point de vue du thérapeute, mais nous respectons les valeurs, les besoins de la personne. C'est sa demande, c'est pas la nôtre. Et l'important, c'est que les besoins du patient soient satisfaits. Et chaque patient nécessite une approche individuelle et spécifique de son problème.
Et comment on accède justement à ce qu'on appelle l'inconscient, les ressources inconscientes que vous appelez?
Alors les ressources inconscientes et conscientes, comme disait Erickson, l'inconscient est perçu comme un réservoir à ressources. Alors, comment on y accède? L'activité mentale en état de veille est très active. C'est pour cela que nous devons vraiment permettre à la personne d'être dans un état de veille paradoxal. La meilleure méthode est de privilégier les instants où l'activité mentale est en phase de ralentissement. Vous savez, les ondes alpha, quelque part au ralenti, et cet état particulier de la conscience entre veille et sommeil, les pensées parasites sont espacées, nous ne sommes plus dans les mentailles, les suggestions ou les autosuggestions en hypnose peuvent franchir des murailles de la pensée logique, et les meilleures méthodes sont l'auto-hypnose, pour y parvenir, qui permet de conserver un état de relative vigilance, tout en induisant un état particulier d'ouverture à le subconscient. Voilà. Et l'auto-hypnose, ça prend facilement.
Combien?
En quelques jours. Après, bien sûr, il y a des séances qui sont guidées par un praticien en hypnose ericksonienne.
Alors Marie-Ange, on va donner un exemple. Comment on peut justement exploiter ce que vous appelez le subconscient?
Alors écoutez, moi je me rappelle d'un exemple dont je me souviendrai toute ma vie. J'étais au volant d'une voiture sur la plaine vers Corsicana. C'était dans les années 82. Nous étions trois, moi au volant, une amie à droite, un monsieur à gauche. Et pour tourner, pour me diriger vers Corsicana, je regarde mon rétroviseur à gauche, aucune voiture, puis une petite voix intérieure me dit « Stop, attends ». Et là, une voiture m'a doublé à toute vitesse.
Vous avez eu un signe?
Oui, un signe.
Du subconscient?
Oui, un signe, voilà. Et le monsieur qui était derrière, qui est décédé maintenant, Lucien, avait eu très peur et pendant une semaine, il a été malade parce qu'il s'est dit « Mon Dieu, nous pourrions être… »
Bien sûr, il a anticipé.
C'était un signe, oui.
On vous retrouve demain, Marie-Ange
Coux,
qui une chronique à podcaster sur notre site Belle Anima. À demain.
À demain.
Marie-Ange Coux, qui est bonjour.
Valérie, bonjour.
On vous retrouve. Alors, cette semaine avec vous, Marie-Ange, on parle ces jours-ci de ce qu'on appelle
les pouvoirs
du subconscient. Alors, hier, vous nous avez donné un exemple. Vous avez eu le subconscient qui vous a donné un signe, qui vous a dit il faut s'arrêter, etc. Et vous l'avez fait. Voilà. Est-ce que c'est valable? Vous avez d'autres exemples?
Oui, c'est comme si parfois notre intuition pouvait nous sauver la vie. Moi, personnellement, je crois à l'intuition. J'ai lu beaucoup de livres sur des circonstances hasardeuses qui nous proviennent d'un danger, oui. Par exemple, ce que j'ai cité hier. C'est comme si notre intuition nous avait prévenu quelque part. Hein. J'ai même connu des personnes qui savaient d'instinct qu'elles allaient rater l'avion. Et parfois, je pense que c'est souvent des signes du destin. Alors, est-ce que c'est intuition? Je me parais pendre de façon certaine, mais je pense parfois que nos erreurs, nos actes manqués sont très révélateurs de messages. Et la leçon de tout cela, c'est qu'il est utile de s'écouter parfois.
Alors, vous dites que c'est le subconscient, un moyen efficace qui peut nous donner des instructions, ce qu'on appelle l'instinct peut-être, à nos ressources, parce qu'on a des ressources limitées.
Alors, par exemple, aujourd'hui, comme si nous pouvions nous écrire une lettre à notre subconscient, écrire une lettre de nos désirs, de nos buts, de nos souhaits, de nos priorités. Écrivez par exemple ce que vous voulez être dans un mois ou dans 6 mois. Quelque part, ça fixe dans notre subconscient des priorités. Et c'est un moyen efficace pour donner des instructions à nos ressources illimitées. Et plus elle s'alimente de cibles précises, plus elle travaille pour nous. Et c'est à nous de déterminer notre avenir quelque part. Et on peut compléter cette lettre en y ajoutant des images de nos buts, des images qui créent dans notre esprit pour avoir des pouvoirs surprenants. Et l'image est le langage du subconscient.
Et comment on peut l'activer plus intensément, ce subconscient ? Il y a des méthodes ?
Oui, alors, comment dire, les images mentales, par rapport à cette lettre, notez en détail quand est-ce que vous souhaitez voir vos buts réalisés. Prendre qu'un objectif, ne vous posez pas la question du comment cela va arriver, mais plus vous dire que ce subconscient connaît les issues et les solutions que vous n'auriez pas supposées. Et complétez votre lettre de motivation, de phrases positives. Et quand votre lettre est rédigée, rangez-la dans un dossier ou une boîte, oubliez son existence et apprenez à lâcher prise.
Oui, vous parlez de la nécessité du lâcher prise, ça revient souvent.
Oui, le lâcher prise, car l'esprit c'est désormais ce que vous venez de lui transmettre. Et une lettre, c'est comme un contrat avec soi-même que l'on rédige pour nous-mêmes. C'est la précision d'un contrat. Ne plus y penser, ne plus se tracasser. En revanche, dès qu'une idée surgit dans votre conscience, notez-la tout de suite et vous allez être surpris des résultats. Il y a de grandes chances que votre lettre de vos buts se transforme en réalité concrète. Vous pouvez le faire, hein, prendre un papier, un stylo oui. Et commencer cette lettre.
Alors, les réponses, donc vous dites que toutes les réponses sont en nous, ça veut dire que, quand on pense que ça va marcher à coup sûr, qu'est-ce que vous en pensez ? Puisque vous dites que tout est en nous.
Alors, l'idée, c'est que certaines personnes ont de l'intuition et d'autres non. C'est assez répandu. Parfois, on me dit « Non, mais moi, je n'ai pas d'intuition. » En fait, c'est une fonction qui existe en chacun de nous sous forme d'un potentiel à exploiter. Nous disposons de deux intelligences, l'intelligence rationnelle du cerveau gauche et l'intelligence intuitive du cerveau droit. Et cette intuition, c'est comme une boussole ou un GPS. Elle oriente nos décisions grâce à sa fonction d'anticipation. Et lorsque nous avons une intuition, nous ressentons l'information. Cela se présente comme une conviction, comme une vérité pour soi. Je suis persuadée, Valérie, que ça vous est arrivé d'avoir cette intuition. Quelque chose qui vous dit ça va marcher. J'ai une amie qui me dit hier, je me suis levée, je suis sûre que ma maison est vendue. Voilà, écoutez cette petite voix en toute confiance. Et je suis sûre que dans quelques semaines, sa maison est vendue. Bien sûr, elle a mis des actions, elle a mis des actes pour que sa maison soit vendue. À un certain moment, elle a lâché prise. Et hier matin, elle a eu cette petite voix intérieure, la maison
et
est vendue.
Et ça s'est passé.
Ça s'est passé.
Alors, il y en a qui pensent que c'est pas fiable, hein, voilà, que l'intuition elle est pas fiable.
Alors nous faisons tous l'expérience de l'intuition sans le savoir. C'est une aptitude naturelle qui se manifeste au travers des images, de ressentis, d'impressions, parfois aussi de messages verbaux, une petite voix, et quel que soit son mode d'expression, elle se présente toujours comme une évidence et une vérité pour soi. Et il suffit d'écouter les messages, les synchronicités, en portant notre attention sur tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Et c'est là que les codes de notre intuition nous deviennent plus familiers.
Alors, elle se situe, cette intuition, vous m'avez dit, dans l'hémisphère droit de notre cerveau, qui est spécialiste aussi de l'imaginaire et qui nous donne accès au monde de l'émotion, à nos cinq sens, Marie-Ange.
Oui, nos cinq sens qui sont stockés dans notre subconscient, notre champ d'énergie. Dès que nous nous posons des questions et que nous formulons des demandes, le processus intuitif se déclenche en une fraction de seconde. Et peut-être que cela peut nous amener, sans le savoir, à passer, qui sait, sur d'autres plans de conscience pour amener des éléments dont nous avons besoin. Alors là, c'est un vaste sujet, nous n'aurons pas le temps de le découvrir, mais c'est la physique quantique qui nous apporte des réponses dans ce sens. Voilà, mais c'est un vaste sujet.
En quelques phrases ?
Alors, des expériences scientifiques montrent que nos pensées émettent des vibrations électriques captables dans l'air, dont la force est proportionnelle à l'intensité de nos émotions. Ainsi, plus la fréquence des ondes cérébrales est forte et claire et dure longtemps dans le temps, et plus la pensée peut se matérialiser en une réalité visible. Et c'est ainsi que nous comprenons l'influence des pensées positives ou négatives de nos propres pensées. Et il s'agit donc d'être davantage conscient de l'influence de nos pensées. Et je vous invite pour cela à lire aussi des ouvrages de Carl Jung sur les pensées, la notion de synchronicité, pour comprendre que nous pouvons nous influencer en positif.
Merci à vous Marie-Ange Cook et on vous retrouve demain pour la suite.
À demain Valérie.
Marie-Ange Cook est avec nous sur RCFM. C'est notre dernière chronique.
C'est notre dernière chronique Valérie.
On retrouve la plupart de nos podcasts. Hein,
oui,
aussi.
À réécouter en podcast.
Voilà, un bel anima. Pour ceux qui ont besoin de leçons particulières, ils peuvent bien sûr vous contacter. On redonne le nom de...
Oui, alors déjà Psynos Formation qui est un centre de formation à Bastia, formation en coaching, thérapie comportementale, concept de communication, hypnose, sophrologie, PNL, ainsi que toutes les spécialisations pour des personnes déjà certifier, installer les acouphènes, la douleur, psychopathologie, etc., etc. Et j'ai un site qui s'appelle Psynose Formation.
Ça, c'est important. On va sur votre site directement.
Oui, et des consultations, bien sûr, en thérapie comportementale.
Alors, on parle de l'intuition. Notre intuition, Marie-Ange, devient comme, en fait, la voix de notre cœur. C'est quelque chose de sacré ?
Oui, on peut considérer l'intuition comme l'expression et le prolongement de notre essence ou de notre âme, hein, pour certains, qui agit grâce à notre expérience. Elle devient alors la voix de notre cœur. C'est peut-être aussi un guide intérieur, imprégné de valeurs telles que la sagesse, la compassion, le respect, le partage. C'est comme si nous mettions du sacré dans l'ordinaire de notre vie et aussi de la lumière.
Alors notre intuition, donc, on a l'impression qu'elle vient de nulle part en fait. Nous savons qu'elle est vraie, nous l'ignorons, elle est convaincante, elle nous pousse à agir. Si on l'écoute, il y a des situations favorables qui arrivent, c'est ça ?
Oui, et comme nous l'avons compris, elle a pour but de nous apporter une réponse, un éclairage et de nous donner une orientation, l'orientation d'une situation. Et pour cela, elle va se manifester en utilisant nos canaux sensoriels. Chez certains, c'est l'auditif, c'est la petite voix, une petite voix qui va nous dire « Va vérifier là, il y a ton dossier là-bas, ressors-le, il est là ». Parfois, c'est un ressenti de sensations physiques. Notre corps devient comme un baromètre infaillible. On appelle cela le pressentiment et sont bien en contact avec nos émotions. Exemple, face à une personne, vous ressentez par exemple un pincement. Cela peut vous indiquer qu'il vous faudra être vigilant. Vous ressentez une sorte de résistance ou de fermeture. C'est une indication de réponse. Ou à l'inverse, face à une personne, vous vous sentez dynamisé, envahi de bien-être. Vous adoptez une bonne posture, vous ressentez de la fluidité. Cela signifie que c'est bon. Et en visuel, ce sont des flashs qui s'imposent à l'esprit comme des évidences. Voilà, des images de scènes, de symboles. C'est notre côté, on va dire, entre guillemets, un petit peu visionnaire, considéré comme notre sixième sens. Et en résumé, notre intuition se révèle grâce à nos canaux de perception. Alors bien sûr, il existe des exercices pour stimuler nos modes de perception. Et c'est aussi croire en nous, en nos capacités intuitives, être attentif à ce qui se passe en nous, autour de nous. Et la confiance est un atout majeur dans ce processus d'apprentissage. Ça peut s'apprendre aussi. Mais nous l'avons tous en nous.
On l'a tous en nous.
Si nous regardons, si nous écoutons les messages et synchronicités.
Savoir écouter. On peut aussi utiliser les coïncidences pour accéder aux intuitions.
Oui, donner du sens à ces fameuses coïncidences comme un message codé qui serait placé dans notre réalité, certainement pour une raison bien précise. Et se dire, qu'est-ce qu'elle cherche à me dire cette coïncidence ? Quel sens ? Est-ce que c'est un encouragement, un avertissement ? Mais à quoi je pensais avant qu'elle se produise cette coïncidence ? Est-ce que parfois une coïncidence, c'est le prolongement d'une intention peut-être, que l'on a envoyé à l'univers, une intention ? Peut-être un besoin, une demande qui nous tient à cœur. Alors, utilisons les coïncidences pour accéder encore plus aux intuitions. Et plus on reste à l'écoute, et plus on constate combien une coïncidence peut être la réponse de ce que l'on attend.
Alors, on peut cultiver donc, Marie-Ange, si j'ai bien compris, un esprit positif pour développer nos intuitions. Et
oui,
on doit toujours le faire.
Et oui, parce que nous avons remarqué, Valérie, à quel point notre état d'esprit, notre humeur influence sur le déroulement d'une journée. Voilà, nous projetons notre manière de penser, de ressentir, nous percevons la vie, mais c'est aussi à partir de notre état intérieur. Je dis toujours, on ne peut pas changer la météo extérieure, mais on peut changer notre météo intérieure. Donc c'est vraiment l'influence de nos pensées et de nos actes sur la réalité.
Alors devenir optimiste, c'est choisir un mode de pensée qui est tourné vers ce qu'on appelle le constructif, qui agit directement sur nos comportements. C'est bien ça qui provoque une cascade, vous me dites, d'occasions favorables.
Oui, exactement, Valérie. c'est aussi, bien entendu, c'est un travail sur soi, de connaissance de soi, on en parle aux différentes émissions. C'est aussi faire la paix avec soi, apprendre à mieux se connaître, à mieux s'aimer. Ainsi, si on s'aime mieux, on va mieux aimer les autres. L'optimisme. Et regardez, l'optimiste, il est persuadé que ses actions provoqueront un avenir meilleur. Après, toujours le lâcher prise. Et aussi lâcher le lâcher prise du besoin d'avoir toujours besoin d'avoir raison.
Ah oui, ça c'est important.
Après, c'est apprendre à être positif pour mieux réagir en toutes circonstances.
Merci à vous, Marie-Ange Coux, qui c'était notre dernière de la saison. Et on va vous retrouver quand même sur RCFM cet été.
Cet été, merci Valérie. Bon été à vous aussi, bel été à tous.
À bientôt.
À bientôt.